Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicants 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Antoine Garceau pour cet épisode de l'Entertainment Lab. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Donc c'est un plaisir de t'avoir. Donc Antoine, tu es réalisateur, tu as été assistant réal, tu as fait une des plus belles séries françaises 10%, enfin en réal évidemment. Tout d'abord, est-ce que tu peux revenir sur les grandes lignes de ton parcours avant d'arriver à la réal finalement?
Alors, aujourd'hui on peut arriver à la réalisation de plusieurs façons différentes. Il y a des comédiens qui réalisent, il y a des auteurs qui tout d'un coup réalisent. Moi je viens d'un parcours un peu plus traditionnel qui est... on réalise quand on a été assistant longtemps. C'est, c'est mon cas en fait. J'ai commencé comme troisième assistant, puis deuxième assistant, puis premier assistant assez longtemps. Et après, c'est toujours assez compliqué de basculer de premier assistant à réalisateur parce que ce n'est pas exactement le même métier. Et voilà, il faut un coup de pouce, une rencontre, quelqu'un qui vous fait confiance, ce qui a été mon cas moi. Et voilà, j'ai eu la chance de croiser le parcours de Cédric Clapiche, dont j'ai été l'assistant sur plusieurs films. Puis à un moment, il m'a proposé de le rejoindre sur une série que Dominique Besnéard lui avait parlé. Il m'avait dit, je me souviens de ce rendez-vous, il me disait « Oui, écoute, on propose, je ne suis pas sûr de le faire, c'est une série sur les acteurs, les agents et tout ça. »
T'étais au rendez-vous là ou c'était avec Cédric?
Non, c'était juste avec Cédric et moi.
D'accord. Un jour,
on déjeunait ensemble, mais c'était vraiment...
Informel, quoi.
Oui, c'était informel. Et puis, le projet n'était pas encore complètement lancé. Il avait été sollicité. Il avait dit, j'hésite, qu'est-ce que t'en penses? J'avais lu quelques épisodes et je lui ai dit, mais vas-y, Cédric, réalise-le parce que c'est bien écrit, c'est drôle. Les séries, c'est le... Là, on devait être en 2012, tu vois, 2013, il y a une dizaine d'années. Je lui disais, mais les séries, c'est en train d'exploser. Donc, vas-y, c'est le bon moment. Fais-le, je te le conseille. Il m'a dit « Oui, je vais voir, je vais réfléchir ». Et il m'a rappelé plusieurs mois après, on en a reparlé. Il m'a dit « Mais tu veux pas… » Enfin non, il m'a dit « Oui, je vais la faire, cette série, mais je n'ai pas envie de faire les 6 épisodes tout seul. Donc,
tu vas m'aider.
Est-ce que tu ne veux pas en faire 2 ?» Et j'aimerais bien que Lola Doyon, réalisatrice aussi et par ailleurs femme de Cédric, en réalise 2 aussi. Donc tous les trois, on a fait cette série à 3. Super. On a réalisé 2 épisodes chacun. Et pour moi, ça a été évidemment une opportunité incroyable. Qu'il a fallu saisir, hein, parce que c'est quand même assez... C'était sûr. Un peu vertigineux, mais une chance inouïe, quoi. Et puis comme la série a eu le succès que tu connais...
Bah oui, on va y revenir, bien voilà. Sûr, et on voit la gentillesse, la bienveillance de Cédric Clapiche, qui a finalement le renvoi d'ascenseur, comme on dit, vous avez bossé ensemble.
Oui, et puis Cédric, et moi je suis très attaché à ça, et puis parce que je lui dois aussi, est très attaché à la transmission.
Transmission. Oui.
Et au fait que, il s'intéresse beaucoup à aussi aux jeunes générations, à ce qui se passe maintenant.
On l'a vu dans son cinéma même.
On l'a vu dans son cinéma, et puis dans les parcours des gens, il est évidemment
très important pour lui.
Absolument, il est très intéressé par très sensible à l'humain. Et donc, pour moi, c'était une chance.
Alors, pour reprendre ce que tu disais, c'est intéressant. Tu as eu finalement le parcours, comme tu disais, un peu classique d'un réal, un peu comme avant d'ailleurs, parce qu'avant, les Renoir, les grands réals, ils ont démarré en assistant metteur en scène. Alors, je ne pouvais pas ne pas te poser la question. Tu as quand même tourné avec Yvan Attal, François Ozon, Cédric Clapiche. Si tu peux nous dire un truc que tu as appris de chacun, ou chacune même d'ailleurs.
Et chacune, parce que dans cette liste-là, moi, j'ai eu vraiment la chance. De croiser des réalisatrices et des réalisateurs vraiment formidables, qui m'ont appris beaucoup de choses, chacun à leur façon. J'ai été très marqué par le travail pendant plusieurs années avec Patrice Chéreau.
Ah oui,
avec
qui était un grand, lui.
Ouais, qui était un immense, ouais. Avec qui j'ai fait 4 films. Et aussi la rencontre avec Agnès Jaoui, avec qui j'ai fait 3 films, dont Le goût des autres,
ah oui, super
comme film. Une image et Les mois de la pluie. Donc voilà, après effectivement j'ai croisé le chemin de François Ozon, d'Yvan, de Nicole Garcia, de Eric et Olivier, Nakache et Toledano. Mmh. Et voilà, c'est vrai que le fait de travailler sur des films intéressants et des films de qualité fait qu'on me proposait des films
ça
intéressants.
Ça t'a donné
et...
une bonne pêche, parce que quand t'es entouré de tels talents, quand tu t'y es mis toi, j'imagine, ils t'ont donné leur force en
oui,
direct.
Oui, un peu. Et puis c'est un piège aussi, parce que... assistant, ça peut devenir aussi une espèce de prison dorée, parce qu'on travaille avec des gens de qualité et si on veut réaliser, à un moment, il faut se décider à passer le
franchir
le
pas.
Cap. Ouais, exactement.
Mais sur le métier d'assistant, quand même, ce que ça t'a appris le plus en devenant ensuite réalisateur, finalement, tous les grands basiques qui, toi, t'ont vachement servi par la suite, ce sont été lesquels ?
Alors, ce qui m'a le plus servi, c'est de connaître le plateau et les équipes. Parce qu'il y a un rapport à la technique, il y a un rapport au découpage et tout ça. On sait comment on fabrique les choses. Donc ça ne me faisait pas tellement peur. Après, ce qui était beaucoup plus intimidant, c'était le rapport aux comédiens. Parce que même si tu échanges avec eux quand tu es sur le plateau et que tu es assistant, c'est pas toi qui leur donne les indications de jeu. C'est pas toi qui les fais travailler sur le sens ou c'est pas la bonne direction. Enfin, déjà,
c'est vrai.
Faut savoir.
Et ils sont pas câblés comme les techniciens. C'est
bah, exactement.
Notre style de population.
Et puis, voilà. Et puis... vraiment, il y a une espèce de lien à trouver quand on est réalisateur et qui n'est pas du tout le même que celui quand
mais
on est...
Sur les plans de travail, ça t'a aidé ? Parce que souvent, les assistants, c'est quand même eux qui tiennent aussi le timing et le planning.
Bah, c'est
un
gros peu leur, c'est un peu leur mission première. Hein, c'est qu'ils ont une espèce de responsabilité vis-à-vis de la production de faire tenir le tournage dans le cadre qu'on a décidé tous ensemble. Alors moi, j'essaye de mettre un peu ça de côté... Quand je réalise, mais il y a toujours un truc.
Tu gardes ce côté un peu organisationnel.
Oui, je vois bien quand ça te dérape un peu.
Ça, c'est un petit plus. Que
oui, c'est un petit plus qui peut être un petit moins aussi.
D'accord.
C'est-à-dire que ça peut être un peu. Enfin, on peut se donner un peu des limites, alors que parfois.
Oui, il faudrait se lâcher artistique.
Donc,
c'est ton
pas.
Petit côté Clint Eastwood qui impacte ses
alors,
films.
C'est
en
exactement
40 jours.
Ce que j'allais dire. C'est mon côté Clint Eastwood. C'est pile mon côté.
C'est
Clint
souvent
Eastwood.
L'exemple qu'on donne parce qu'il tourne tous ses films en 40 jours et c'est toujours impacté. Il n'y a pas de dépassement. C'est
Woody
ça. Il est connu pour ça. Hein.
Woody Allen, c'est pareil. Woody Allen, à un moment, j'avais été contacté pour être assistant sur le film qui tournait à Paris, là, qui s'appelait Midnight in Paris.
Ah oui.
Et finalement, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'avais rencontré sa productrice qui m'expliquait que tous les films de Woody, appelons-le Woody, c'était quel que soit le scénario, elle avait toujours le même budget en gros. Quoi. Donc elle savait que c'était 30 jours, quoi qu'il arrive, et qu'après il fallait trouver les solutions pour faire rentrer ça.
Il paraît même que parfois il a pas les pages de scénar, il a juste un peu la situation. Je sais pas si ça c'est vrai ou c'est avéré pour toi.
C'est possible. C'est possible. Après, c'est des gens qui maîtrisent tellement leur univers et leur outil de narration que tout d'un coup, d'accord, même si c'est pas écrit, ils peuvent trouver une idée. Ou
alors ça serait François Ozon qui serait un peu comme ça, qui est connu pour tenir
alors,
bien
François,
ses timings.
Ouais, François, il est... alors moi, c'était en 2002, ce film, donc c'était il y a 20 ans quand même. Ça s'appelait Swimming
Désolé,
Pool.
Je te ramène. Ah oui, Swimming Pool, très bon film,
Swimming
avec Ludivine Sagnier.
Exactement, et Charlotte Rampling.
Oui.
Et du coup, depuis, il a fait, 15 films.
Il tourne un par an. C'est un peu le Woody français. Quoi.
Exactement. Et j'étais assez fasciné par sa maîtrise absolue de tout. Quoi. Du temps, de la narration, des acteurs. Enfin, tout devait rentrer dans le cadre qu'il avait fixé. Et il était conscient de tout. Il savait parfaitement comment tout fonctionnait. Il s'est rarement débordé. Et quand je vois ces films maintenant, je trouve que c'est de mieux en mieux réalisé. Peut-être qu'il est... Enfin, c'est pas que c'était mal réalisé à l'époque, hein, loin de là. Mais il y a une espèce de liberté, de fluidité de plus en plus grande que je trouve assez fascinante.
Qui était génial dans son film Grâce à Dieu.
Je sais pas si exactement.
Moi, c'était du lourd. J'ai trouvé ce film sur l'église.
C'était incroyablement bien.
C'était très fort.
Raconter, maîtriser les personnages, les points de vue, les acteurs. Enfin, j'étais très impressionné. Il y a eu beaucoup de films intéressants de Ozon. Ouais. Dans la maison, tout ça. Enfin, vraiment.
Alors, on arrive sur ton métier de réal. Donc, tu l'as cité évidemment, cette série que tout le monde a citée depuis, hein, qui a fait date 10%. On avait d'ailleurs reçu Harold Valentin des prods il y a quelques mois au podcast. On commence à recevoir les gens à l'Entertainment Lab. Alors 10%, t'en as parlé, hein. Bon, on connaît un petit peu l'histoire, que Dominique Besnéard, c'était très long de monter ce projet. Et puis quand c'est parti avec France Télévisions, ça a été tout de suite, hein, quelque chose. Si tu vas dans la fabrication, qu'est-ce qui t'a intéressé sur ce projet? Parce que là, on va un peu plus dans la prod des séries, qui finalement est le sujet un peu du moment, hein, qui malheureusement a un peu détrôné le cinéma. Mais qu'est-ce que toi, t'as trouvé génial dans la fabrication d'une série, finalement?
Bah, ce qui est assez paradoxal avec la série, c'est qu'on met très longtemps à l'écrire et très peu de temps à la tourner. C'est-à-dire que moi qui étais habitué comme assistant à des films où voilà, on tournait avec une seule caméra, on avait le temps, etc. Là, tout d'un coup, on faisait un épisode de 52 minutes en 11 jours. Wow. C'est-à-dire une moyenne de pas loin de 5 minutes par jour, ce qui est donc le double de ce qu'on fait habituellement au cinéma, pour schématiser un petit peu. Et du coup, c'était un peu vertigineux parce que quand on voyait ce qu'on avait à faire dans la journée, on se disait on n'y arrivera jamais, quoi. Okay. Mais la base, hein, de toute manière, pour aller vite, c'est d'avoir des bons acteurs et un bon texte. Et donc là, je dois dire.
Et moins de lieux, tu crois, ici? Ça peut jouer
un moment, bien sûr. Mais en même temps, on ne peut pas tout faire non plus dans la salle de réunion de l'agence ASK. Donc il faut en sortir aussi. Mais quand on a des bons acteurs et un bon texte, on n'a pas besoin de faire
trop d'artifices
et tout ça. C'était... Alors moi, j'ai eu la chance de réaliser des épisodes sur toutes les saisons de 10%. Ouais. Donc j'en ai fait 10.
Donc saison 1, tu as fait les plus marquants. Tu as fait Cécile de France.
Non,
lesquels tu avais fait?
Non, j'ai fait le deuxième épisode qui était avec Lynn Renault et Françoise Fabian.
Ah, Lynn Renault, ouais.
Avec deux comédiennes âgées qui se battait pour un projet.
Oui, très bien.
Et le thème était génial. Genre, quand est-ce que ça s'arrête le désir chez les comédiens et les comédiennes? Et la réponse était jamais. Ouais. Donc, il y avait cet épisode-là. Et j'avais fait, sur la saison 1, un épisode avec Audrey Fleurot.
Ah oui.
Qui devait faire une comédienne, qui devait jouer le rôle d'une fille qui faisait du pole dance et tout ça. Et elle s'entraînait chez elle.
Ok. Et quand tu es arrivé sur le projet, finalement, donc c'était très... Il y avait beaucoup de Bible. Tu dis, alors après, avec ce que tu peux dévoiler, on ne va pas tout dire non plus, mais finalement, un projet comme 10%, parce que moi, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est le générique, c'est qu'il y a une vraie identité, la musique. Ça, je crois que c'était ta patte et celle de Cédric Lapiche. Et puis, une DA, on a l'impression qu'il y avait une vraie direction artistique qui changeait un petit peu des séries françaises. C'était un peu plus marqué du côté identité, quoi.
Oui, parce qu'avec Cédric et Lola, on a beaucoup travaillé sur l'identité de cette agence, dans quel quartier de Paris l'a
c'est
situé.
Premier, non, c'est un peu rue de Rivoli.
Oui, exactement. Louvre, Rivoli, en tout cas vraiment la rue du Faubourg Saint-Honoré. Vraiment
c'est vraiment là où il y a tous les rendez-vous un peu du business finalement. Il y a les agents.
Exactement. Et donc, je me souviens, on déambulait dans Paris pour trouver un extérieur d'immeuble qui nous parle. Et puis, on a trouvé celui où on a tourné, là, qui est à l'angle de la rue Saint-Honoré, je crois, et tout près du Louvre et de la rue du Louvre. Et après, on a fait des repérages dans les agences et on a essayé de mélanger le côté un peu à l'ancienne boiserie justement d'Art Média et le côté un peu plus...
un peu Mad Men. Il y a un peu de modernité, je trouve.
En fait, il faut mélanger le classique et puis du moderne. Et chez Adéquat, il y avait des baies vitrées, il y avait des structures métalliques. On a essayé de mélanger les deux. Et la moquette nous donne un côté très Mad Men.
Oui, c'est la moquette, ça que je voulais dire.
Ah, ça, c'est un vrai sujet, la moquette. D'ailleurs,
qui était le déco, alors, les chefs déco?
C'était une déco qui s'appelle Emmanuel Duplay.
Ok, bon, là,
et c'est drôle parce que je l'ai vu le week-end dernier. On était avec Cédric et Lola, on s'est retrouvés un moment et puis on reparlait de cette histoire de moquette.
Parce que tu vois, ça m'a marqué inconsciemment. Voilà. Tu m'en parles, je me dis, ah, mais il y avait un truc sur la moquette.
C'est drôle parce que vraiment, c'est comme chez soi, c'est-à-dire qu'il faut choisir la moquette qu'on va mettre sur un échantillon qui fait 2 cm sur 2, et là on avait, je sais pas quoi, 400 mètres carrés.
Ça amenait un peu de chaleur en fait, il y avait un côté cosy qui était amené.
Un côté cosy, mais qui n'est pas évident parce qu'elle est très marquée, quoi. Donc il faut se dire, est-ce qu'elle ne va pas être trop forte? Est-ce qu'il ne faut pas être un truc plus neutre?
Voilà. C'était plus chaleureux quand même qu'Art Média. Moi j'avais fait les Art Média Avenue Rap et tout, là on était un peu plus bas de plafond. C'était un peu.
Alors on a mélangé les deux
et un peu.
Et voilà. Emmanuel nous a proposé ce décor et voilà, et je me souviens que. À la saison 2, on a un peu changé. On a le coin cafétéria, on l'a agrandi à la saison 3. Enfin, on a fait des aménagements à chaque saison.
Par exemple, c'était vachement designé. Tu avais un peu d'esquisses, de storyboard, de costumes. Tu avais tout l'artwork des costumes. Tout ça, c'était pas mal figé en amont de la réal.
Ah oui, comme toujours, comme toujours. Sur n'importe quel projet. C'est-à-dire que tu fais des réunions avec la déco, tu fais des plans. Le choix de la grande découverte, parce que c'est du studio, hein, donc vous l'avez compris, ce décor de l'agence ASK, toute la grande découverte, elle a été compliquée à fabriquer et tout ça. Enfin, c'est énormément de réunions, mais c'est comme sur n'importe quel tournage. On n'arrive pas le matin en se disant, tiens, qu'est-ce
studio, tu maîtrises toujours mieux la lumière, quelque part.
C'est un peu la clé, le principal intérêt. C'est-à-dire qu'il y a une séquence de jour, et puis après, on fait une séquence de nuit, et puis boum, on appuie.
Sur les chefs-op, tu avais quel style dit de chef? Désolé, je fais toute la tech, ça me passionne. Oui,
bien sûr.
Deux, trois directeurs photo marquants.
Alors, en fait, on a eu, assez curieusement, on a eu un chef-op différent à chaque fois, chaque saison.
Chaque saison, assez
Parce que celui de la première saison n'était pas libre pour la 2, et puis après, on voulait quelqu'un. Enfin bon, bref, à chaque fois, on a trouvé des gens différents et chacun a pris plaisir à filmer ses comédiennes et ses comédiens et à apporter sa patte. Et honnêtement, quand on voit un épisode dans le désordre maintenant, d'une saison 2 ou 3 ou 4, on a du mal. Enfin, je ne pense pas qu'on dise ça, c'est la lumière d'un tel.
Et saison, vous arrivez à shooter tout en continu ou je crois qu'il y a eu un sujet qui n'était pas simple sur les dispos des comédiens, forcément.
Ah, toujours. C'est toujours un...
Donc ça, c'était pas forcément shooté en continu. Tu avais des intermittences entre les dispos des uns et des autres. Vous arriviez à tourner quand même tout.
En fait, tourner une série, c'est comme tourner un long métrage. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas, quoi.
D'accord.
C'est-à-dire que là, nous, il y avait donc 6 épisodes et 11 jours par épisode, donc 66 jours, ce qui fait un peu plus de 13 semaines. Et on tourne 13
tout
semaines.
Tout en continu.
Ouais.
Donc vous aviez tout le monde quand même en continu sur les 66
jours. Non, parce que...
Enfin, je veux dire tout le monde.
Tout le monde est bloqué sur la période,
oui, voilà,
mais à l'intérieur, peut-être que Camille Cotin, elle va faire 3 jours sur un autre film, que Thibaut de Montalembert, il est au théâtre le soir.
Donc là, en plan de travail, ça
devait y aller.
Alors, qui a été ton assistant?
On avait un assistant très confirmé qui s'appelle Jérôme Zadgerman. Okay. Et qui a maîtrisé sur les 4 saisons d'ailleurs ce plan de travail.
Bon, ça a dû être génial. Quand t'écoutes, ça a dû être un grand kiff quand même.
Ah bah oui. Et puis évidemment, la notoriété des comédiens a explosé au fur et à mesure des saisons. Et du coup, la 4e saison, vraiment, c'était de la dentelle de faire ce plan de travail parce que Camille, elle commençait à tourner un peu plus à l'étranger. Je me souviens, il y a une saison qui devait être la 3e où Nicolas Maury et leur Calamy étaient au théâtre.
Ils étaient tellement tous bons, quoi.
Et donc, il fallait libérer tous les deux à 17h. Enfin, non, c'était
des petits plans de travail sympas. Il y a dû avoir du coursier, là.
Il y a eu de la mototaxi, ouais.
Il y a de la mototaxi.
Il y a eu de la Charlotte et de la mototaxi, ouais.
Non, bah, c'est super. C'est génial que tu fasses revivre toute l'ambiance de cette série que tout le monde a adoré, évidemment. Et qu'est-ce que je peux te poser d'autre comme question? Ah oui, non, une petite question sur l'écriture. Est-ce que finalement, tu es un peu de l'école de retouche un petit peu les textes avec les comédiens ou finalement c'est une bonne base avant le tournage?
Il y a de toute manière, je pense que la clé aussi c'est d'arriver en tournage et qu'il n'y a plus de discussion sur les textes quand on commence à tourner, parce que sinon on n'a pas le temps. Si tout le monde commence à dire si je disais ça et machin, alors là on est mort. Donc de toute manière on avait des bons textes à la base. Et après, on faisait des lectures avec les comédiens et dans la bouche des comédiens, on voyait ce qu'il fallait.
Souvent, je trouve que c'est les meilleurs lecteurs, les comédiens. T'es d'accord qu'ils ont quand même une petite... Ils arrivent à t'amener...
Il faut les
cadrer en même temps, tu vas dire.
Oui, c'est assez marrant parce qu'ils ont souvent des avis sur ce que leur personnage pourrait dire ou pourrait faire. Donc, de temps en temps, il faut être à l'écoute. Et puis, il faut prendre. Et puis, parfois, il faut laisser.
Il faut driver aussi c'est le travail du rêve. Ouais. C'est le côté Kubrick, quoi.
C'est
le louche rencontre Kubrick.
Après, mon côté Eastwood, c'est mon côté Kubrick, sans doute. C'est ça.
Toi, t'es plus à bien quand même. Un metteur en scène, c'est doit beaucoup driver ou tu trouves qu'il y a un peu un bon mix des deux, quoi.
C'est un bon mix des deux parce que tout d'un coup, quand des comédiens vous apportent des choses ou même des répliques ou des choses un peu inattendues et que c'est bien, faudrait vraiment être...
Bête de ne pas le prendre.
Ouais, borné pour se dire non, ça ne vient pas de moi, donc j'en veux pas, quoi.
Moi, j'avais une petite question sur César Wagner. Je crois que tu as participé au pilote. Et alors, le pilote, avec Gilles Alma notamment, est-ce que le pilote, c'est vraiment... Ce n'est pas totalement français, c'est plus anglo-saxon, mais qu'est-ce qui est pour toi important dans un pilote?
Alors, j'ai plus que participé puisque j'ai réalisé le pilote. Et effectivement... La chaîne attendait de voir le résultat pour en commander éventuellement d'autres épisodes, quoi. Et là, ils ont dû estimer que le pilote était réussi, puisque depuis, ils en ont tourné, je crois, 8 ou 9 autres épisodes.
Okay.
Parce que la stratégie des chaînes, c'est qu'effectivement, les séries ne sont pas inépuisables. Quoi. Donc, il faut commencer à lancer des pilotes d'autres personnages, d'autres arènes, etc. Et puis, ceux qui marchent, ils les confirment ou ils les arrêtent.
Quoi. Ça se voit de plus en plus, tu trouves, les pilotes ? Ouais.
Oui, en fait, on ne sait pas vraiment que c'est un pilote. Enfin, on voit un épisode. Et puis, voilà, il n'y a pas marqué pilote sur le générique. On voit un épisode d'une série. Et puis, si vraiment ça plaît, ben, la chaîne se décide d'en faire d'autres après. Quoi. Et ça a été le cas de César Wagner.
Okay, avec Gilles Alma,
Gilles Alma, que j'aime beaucoup, et Olivia Cotte, qui est merveilleuse.
Alors, sur tes projets, tu as aussi... en deux mots, tu voulais nous dire une petite anecdote sur quand c'est sorti, finalement, 10%, parce que tu aimais bien le concept, les acteurs, tu disais, il y a quelque chose qui se passe, mais comment deviner que ça allait faire un tel carton ?
Oui, non, mais c'est incroyable, parce que 10%, on a tourné la première saison... si ma mémoire est bonne, entre novembre 2014 et peut-être février 2015. Et donc, le temps voilà, qu'on fasse la post-prod, qu'on monte les épisodes, les épisodes étaient prêts pour le Festival de La Rochelle, Festival de la fiction.
Qui arrive bientôt, voilà, d'ailleurs, là, en septembre.
Festival de La Rochelle, donc en septembre 2015. Mais il se trouve que ni Cédric, ni Lola, ni moi-même, nous étions... disponible pour y être. Et en fait, il paraît que la projection des deux premiers épisodes a été absolument triomphale, qui est une standing ovation, comme on dit, une ovation debout. Et les acteurs qui étaient là-bas disaient, mais on n'en revenait pas, quoi, de l'enthousiasme. Et là, on s'est dit, waouh, il y a un
c'était
truc.
Qui était présent en acteur?
Thibaut, Grégory Montel, Thibaut de Montalembert. Enfin, je me souviens plus très bien, parce que ça remonte quand même il y a quelques temps, mais on avait des messages en disant, mais c'est dingue ce qui se passe.
Il se passe quelque chose, quoi.
Ouais, ils nous envoyaient des vidéos de des gens debout en train d'applaudir. Et voilà, et puis après, ce qui a effectivement été très important dans l'histoire de cette série, c'est quand elle a commencé à être diffusée sur Netflix. Mm-hmm. Parce que là, d'une part, elle a été diffusée dans le monde entier. On a eu des retours incroyables. Camille Cotin me disait que même en se promenant, je sais plus où, en Israël, par exemple, les gens l'arrêtaient dans la rue en disant Andrea Martel.
La magie des plateformes.
Incroyable. Et du coup, voilà. Après, bon, il y a eu tous ces remakes là. Vous avez sûrement suivi. Et ça a été une aventure passionnante et vraiment tellement marquante pour nous tous, quoi.
Non, mais c'était une troupe un peu, j'imagine. Oui, les acteurs, ils sont devenus soudés aussi.
Oui, et puis après, chacun vit sa vie et va faire d'autres projets. Mais quand ils se retrouvaient sur la quatrième saison, par exemple, et ben voilà, ils étaient contents de se retrouver. Il y avait du plaisir, il y avait du...
C'est vrai que ça a été un peu un laboratoire parce que tous, ils ont, entre leur calamie, tu disais, Nicolas Maury, Camille Cotin, ils ont tous pris une ampleur ce projet. Alors, Salade grecque aussi, c'est l'autre projet qui est sur plateforme. Hein. C'est Amazon de
mémoire. C'est Amazon, oui.
Voilà, donc avec Cédric Clapiche. Et donc, Salade grecque qui faisait un peu une filiation avec Poupée Russe, finalement, et Auberge Espagnole.
Ce qui s'est passé, c'est qu'après 10%, de toute manière, Cédric et Lola ont arrêté après la première saison de 10%. Donc, je suis le seul de notre trio d'origine à être resté sur les saisons 2, 3, 4. Eux, ils sont partis, chacun de leur côté, ils ont fait des films et ils ont continué leur vie de réalisatrice et de réalisateur. Mais on est toujours restés très proches, tous les trois, très, très, très liés. Et à un moment, Cédric m'a fait un peu la même proposition que quelques années auparavant sur 10%. Il m'a dit, écoute, je vais sans doute faire une série pour Amazon qui serait la suite de L'Auberge Espagnole et des Poupées Russes et de Cassette Chinois, mais sous forme de série. Et j'aimerais bien qu'on la réalise tous les trois, donc lui, Lola et moi.
Top.
Et donc voilà, et on s'est exilé à Athènes pendant de longs mois pour tourner cette série pour Amazon qui s'appelle donc Salade grecque.
Voilà. Avec combien d'épisodes au total ?
8. Alors c'est pas ultra facile à diviser par 3. Donc on a décidé très rapidement en fait que Lola elle en ferait 3 et que Cédric et moi on en ferait 2,5 chacun. C'est-à-dire que le dernier épisode, le 8e, on l'a co-réalisé, Cédric et moi.
Ok. Tu vois une différence ? Alors de bosser justement quand le diffuseur est une plateforme Amazon ou Netflix versus un diffuseur télé, tu vois une différence ? Toi, ça t'impacte au niveau de la fabrication ?
Énorme.
Ah, ça c'est intéressant que tu en parles alors.
Énorme.
À savoir
Énorme, c'est-à-dire qu'ils sont très très interventionnistes, les gens des plateformes. Enfin moi vraiment, je parle de ma propre expérience. Hein. Peut-être qu'il y a des réalisatrices ou des réalisateurs qui diront bah non, pour moi ça n'a pas été le cas, etc. Mais par exemple, Amazon, nos interlocuteurs chez Amazon étaient très très présents sur le montage. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'échanges. Et là, je viens de terminer un tournage pour France 2, qui est une adaptation de La Peste, mmh. le roman d'Albert Camus, donc. Et je l'ai montré directement à la responsable des programmes de France Télé et qui a validé le projet
c'est intéressant,
une fois. Et du coup, on n'a pas eu de... Elle avait une vision plus globale, en tout cas. Et elle m'a dit, OK, c'est bon, et on parle là-dessus. Et voilà, alors qu'avec Amazon, on était beaucoup plus dans le détail.
D'accord. Qui peut amener à des moments et à des moments être un peu plus dur. Et
exactement. Deux, parfois, c'est des
bonnes remarques.
Oui, et puis de toute manière, c'est toujours intéressant de travailler, quoi. Il y a des remarques, en plus, c'est comme avec les comédiens dont on parlait tout à l'heure. Il y a des remarques, on peut dire, non, ça, je suis pas d'accord. Et puis des remarques qu'ils font, on dit, vous avez raison. Et...
Ça fait partie du dialogue et du ping-pong.
Oui, et puis c'est les diffuseurs, donc ils ont un avis, forcément, quoi.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que par rapport aux interviews qu'on a eu dans le podcast, c'est assez variable. Il y en a qui disent parfois c'est plus rapide en plateforme parce qu'ils valident plus vite. Et là, tu viens de dire, je pense que ça dépend vraiment des projets.
C'est bien pour ça que j'ai mis ce petit préambule. Hein. Moi, je parle de
ton expérience.
De mon expérience, et récente surtout, puisque mes deux derniers projets, c'était donc cette série pour Amazon et une série en 4 épisodes pour France 2 qui a été validée d'un bloc.
En deux mots, sur Salade grecque, tes enjeux de mise en scène que tu as trouvé intéressants par rapport, tu as cité la Grèce, ça a été quoi finalement un peu le bain de cette prod, ça s'est joué comment
hein? C'était un vrai défi parce qu'il... 20 ans après l'auberge espagnole, il fallait faire un portrait de la jeunesse européenne
pas mal.
Aujourd'hui, avec évidemment des centres d'intérêt, des enjeux qui sont très différents de
l'époque.
L'époque.
Du jeune Duris.
Et puis du jeune Duris. Et par ailleurs, l'Europe n'est plus du tout la même et tout a changé. Donc il y avait d'énormes enjeux pour trouver un ton entre la comédie qui a fait le charme des films de Cédric et aussi une véracité, une gravité, une authenticité pour parler du monde d'aujourd'hui qui est quand même pas spécialement riant pour la jeunesse.
Donc c'est un peu, on laissera les auditeurs regarder, mais il y avait un côté un peu gravité sur la nouvelle génération.
Oui, parce qu'on parle de beaucoup de thèmes, on parle de beaucoup de la crise migratoire, puisque la série se passe à Athènes qui est vraiment la porte d'entrée de tous les migrants qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc ça, c'était un véritable enjeu. On parle beaucoup aussi du patriarcat, on parle du consentement, enfin on parle
sujets pas fun d'aujourd'hui.
On parle
même de l'après-Covid, ça parlait aussi de... Peut-être pas, vous n'êtes pas allé jusqu'à...
Alors
là,
on n'a pas du pas tout fait de... Il y a un moment où on ne pouvait pas parler de tout, donc on parle ni de Covid, ni d'enjeux climatiques dans cette saison.
On ne peut pas tout traiter non plus.
Non, mais on parle de violences sexuelles, enfin on parle de thèmes vraiment
société,
et d'enjeux.
Quoi.
Absolument.
Alors ça fait une bonne transition ce que tu veux dire, on arrive dans la dernière partie du podcast, tu parles de nouvelle génération, c'est un sujet qui est très important pour nous sur la nouvelle génération de créateurs et de techniciens, j'avais creusé un peu le sujet avec le CNC, je sais qu'il y a un vrai sujet pour révéler des nouveaux techniciens aussi et des nouveaux talents, tu peux en parler un peu parce que toi qui es là-dedans depuis un moment, il y a quand même un enjeu de renouveler les réals, les chefs op, les techniciens. Si tu peux,
allez-y, prenez notre place.
Non, mais c'est pas
forcément. Non, mais bien sûr,
c'est l'un
mais
et l'autre,
franchement, mais... c'est hyper touchant là, sur le tournage que j'ai terminé, donc La Peste, là, quand je voyais l'équipe caméra, les assistantes, elles sont jeunes, elles ont une vingtaine d'années ou 25 ans max, et elles ont une énergie, une concentration, un professionnalisme incroyable. Je me disais, voilà, c'est... ça bouge, il y a tous les postes, mais il y a des jeunes chefs-op, enfin... Vraiment.
C'est important dans ce métier qu'il y ait des renouvellements, même des créatifs. Je trouve qu'en France, il n'y a pas assez de jeunes réals pour avoir des nouveaux regards de création.
Je ne sais pas si vous avez vu le film de Nathan Ambrosioni qui s'appelle Tony en famille.
Il est sorti il n'y a pas longtemps.
Il est sorti mercredi dernier avec Camille Cotin.
Jeune, le mec,
il a 24 ans.
Oui, c'est ça, avec Camille Cotin.
Exactement, et son premier film, il l'a fait à 18 ans. Il maîtrise... vraiment
c'est
bien.
Le Dolan français, quoi.
Un peu.
Le jeune Dolan.
Mais il maîtrise vraiment bien l'émotion, la fabrication, la technique, enfin il est...
Qu'est-ce qui peut faire que ça bouge, ça s'ouvre un peu, toi qui es vraiment là-dedans? Alors, parce que nous, on est un peu dans le brand entertainment, les nouveaux outils, est-ce que dans la manière émerger...
Parce que de toute manière, les jeunes opératrices, opérateurs, sont habitués à travailler avec un matériau plus léger que des caméras en 35 mm. Ils n'ont même souvent jamais tourné avec la pellicule. Et on peut tourner évidemment plus facilement avec des caméras légères. On peut monter chez soi. Enfin, il y a une espèce de facilité pour réaliser et mettre en image des projets qui est quand même beaucoup plus grande qu'à l'époque où j'ai commencé, évidemment. Mais Non, ce qui, à mon avis, manque encore furieusement là, dans notre métier, c'est que sur la parité homme-femme, ça bouge un peu.
On arrive un petit peu
à se rapprocher de
l'équilibre.
Sur la diversité, il y a encore beaucoup
de taf. Devant et derrière la caméra.
Ah, ouais, non,
on a beaucoup de retard avec les anglo-saxons, les
Anglais,
les Américains.
Beaucoup de travail, mais moi je dirais surtout sur le...
Pourquoi ça bouge pas plus, ça, en vrai?
Eh ben, j'aimerais bien le savoir. Si j'avais la clé de ça. Mais c'est surtout, je dirais, plus derrière la caméra que devant. Parce que devant, il y a un peu plus d'ouverture d'esprit des diffuseurs, des réalisateurs, mais des techniciens de cinéma qui viennent des minorités, et ben, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein.
C'est pas bien.
Et non, c'est pas bien parce qu'ils n'ont pas forcément accès aux écoles de cinéma, des formations où ils estiment que ce n'est pas pour eux. Enfin, moi, je ne tourne pas tous les jours non plus, je ne suis pas sur tous les plateaux, mais j'en croise quand même très peu. Et effectivement, là, il y a encore
donc il faut ouvrir branches. Il nous disait pareil que toi, aussi le patron de Trace TV, qui est venu au micro, et qui disait que même lui, pourtant, qui a marché très fort à l'international, il disait qu'il trouvait que la France était encore assez en retard.
Ah bah ouais, je trouve ça...
Et c'est dommage avec l'outre-mer, avec il y a plein de gens créatifs, qu'on donne pas plus effectivement.
Non,
la
mais après,
possibilité, quoi.
Pour les, c'est surtout pour les métiers techniques, quoi, pour les électros, pour les...
Ça reste des métiers encore très régionaux, finalement.
Le son, l'image et tout ça. Il faut en général passer par des écoles et des formations. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore accès. Donc, c'est un peu...
Les écoles, elles s'ouvrent aussi. Comment tu vois
Je ne me rends pas bien compte, non. Mais j'ai l'impression que pas tant que ça. Quand je vois sur le plateau, tout le monde est un peu...
Intéressant ton constat, hein, qui permet...
Tout le monde est un peu blanc de chez blanc, quand même.
De faire bouger les
lignes.
Il y a
un peu de trucs...
Dommage,
ouais.
Dommage.
Bah, dommage, après,
les
voilà.
Les US sont encore très en avant.
Si on en est conscient, après, il faut faire bouger les choses, mais ça...
Bon, on va le faire avec My Jimini. Les auditeurs reconnaîtront. Non, mais c'est vrai qu'on aimerait nous faire valoriser un peu plus les talents qui, à un moment, ont leur patte, leur singularité. Après, ce qui est dur, tu l'as un peu dit, c'est quand même des secteurs pour les décisions. C'est pas facile aussi,
après,
côté relationnel.
Ouais, ouais. Mais après, je parle vraiment de la fabrication, parce que quand même, maintenant... Dans les personnages, c'est quand même ça s'ouvre un peu, quoi. Oui. C'est un peu moins classique et y a un peu plus de
ton regard sur le scénar. Alors juste, on n'a pas trop parlé. Deux petites questions après, on arrive à la fin. C'est qui m'intéresse sur le script. Toi qui as aussi, tu lis tout le temps. Tu le disais off record, des scripts et tout ça. Trouve ça s'améliore la qualité des écrits. C'est un peu plus collectif. Je crois que 10% il était aussi en coécrit. Il y avait Fanny Herrero, mais il y a d'autres scénaristes. T'as un regard, toi, là-dessus, sur la qualité de l'écrit? Est-ce qu'on devient un peu plus script?
Oui, en fait, maintenant, il y a tellement de moyens de diffusion, il y a tellement de plateformes, il y a tellement de chaînes, il y a une telle demande qu'il y a une grosse exigence sur la qualité du scénario. D'ailleurs, il y a une pénurie de scénaristes.
C'est dur comme métier aussi.
C'est
dur. Il y a un manque de budget, il y a un manque,
c'est beaucoup de travail.
Hein.
Oui, c'est énormément de travail. Et puis surtout, maintenant, il y a une exigence énorme.
En plus, qui monte.
Voilà.
donc, il y a moins de budget et il faut travailler les ressources.
Alors, il y a moins de budget. En même temps, il y a des scénaristes et ils sont regroupés, ils ont des agents. Fanny, par exemple, elle fait vraiment en sorte que ça soit, comment dire, reconnu, cette fonction. Mm-hmm. Surtout de la part des producteurs, que les scénaristes soient considérés et que ça soit pas la dernière roue du carrosse, parce que c'est vraiment la base, un bon scénario, quoi. Mais il faut de l'exigence. Quand on voit le niveau de certaines séries, là, de temps en temps, on se dit il faut vraiment que les autres soient...
Petite question de curiosité sur les outils, comme tu as été assistant metteur en scène, il y a même les Movie Magic. Mm-hmm. Tu vois des logiciels qui font gagner un peu plus de temps, parce que c'est vrai qu'un film ou une série, c'est quand même une donnée d'infos énorme.
Ouais.
Comment tu vois ce point-là? C'est du mail, du téléphone, parce
je m'en occupe plus tellement.
T'es moins là-dedans, toi.
Tu vois, effectivement, moi, j'ai commencé, ça fait un peu vieillard, mais il y avait des plans de travail avec des baguettes à la main, etc.
Sur les boîtes de prod.
C'était super. J'ai encore un vieux plan de travail qui
dépliant, là.
Ouais, le grand truc qui se déplie, tu fais une baguette par séquence, après tu la bouges, machin, etc. Bon, maintenant, effectivement, il y a
des nouveaux outils.
Il y a des logiciels, et heureusement, quoi. Donc, je suis plus tellement là-dedans, mais quand je vois les assistants bosser, je m'aperçois qu'évidemment, ça... C'est quand même plus rationnel et ça va un peu plus vite que moi.
D'accord. Parce que le stockage d'images, c'est parfois colossal. Hein. Les disques durs, tout ce qu'il faut pour copier, backuper les rushs.
Je ne sais pas
ce que tu en penses de tout ça.
C'est
énorme.
Honnêtement, je n'en pense pas grand-chose.
C'est une donnée technique.
C'est une donnée technique. Après, c'est prévu, etc. Après, ce qui est sûr, c'est que à l'heure de tous les bouleversements climatiques dont on est forcément maintenant conscient, il faut aussi que le cinéma s'adapte à une espèce de forme de sobriété. Oui. Et d'éco-production. Bah exactement.
Au cœur de séries et de production de films.
Exactement. Maintenant, ça devient une donnée importante et c'est normal parce que il n'y a pas de raison que le cinéma ait toujours une empreinte carbone aussi lourde.
D'accord.
Et qu'il faut, voilà, il faut être...
Ça, tu vois que ça commence à bouger, qu'on optimise les plans de travail avec les déplacements.
Et puis on essaie de limiter les déplacements inutiles, des transports, enfin tout. Voilà, il faut être vigilant là-dessus. Il n'y a pas de raison que le cinéma ne se plie pas à cette règle qu'on demande à tout le monde d'appliquer.
L'IA, tu y crois avec les révolutions de scénaristes à Los Angeles où ils disent que c'est très dangereux. Toi, tu vois ça comme ça aussi?
Je comprends qu'ils soient inquiets.
Qui flippent
Ouais.
Tu n'as pas encore fait de scénar sur ChatGPT?
Non, mais on avait fait des essais avec le premier assistant de la peste.
C'est un peu flippant.
D'essayer de résumer une séquence à la façon de Camus. Et tout d'un coup, il nous sortait un texte.
Et alors, c'était pas mal?
Non, c'était pas bien. Mais quand même, on se disait, putain, ça...
Ça fait flipper.
Ça fait flipper, quoi.
Ok, ok.
C'est-à-dire qu'il a digéré dans la machine tous les textes de Camus, il est capable de sortir un truc.
Ok. Et alors, la toute fin, tes goûts, ça, c'est, j'arrive dans les deux questions usuelles pour l'invité. Les goûts, c'est un peu la question, le questionnaire de pivot. Tes goûts en termes de films, séries, ça peut être même une BD ou une musique, des quelques créations qui t'ont toujours accompagné, un peu des trucs cultes, on va dire.
Sur les séries, je dois dire qu'il y en a une qui pour moi était un peu alors il y en a beaucoup que comme tout le monde j'adorais les Sopranos, The Wire et tout ça, mais Six Feet Under, vrai que pour moi ça a été quand même quelque chose, quoi,
de marquant. Alan Ball au scénar,
ouais,
qui avait fait American Beauty,
absolument,
un de mes films préférés,
qui est vraiment pour moi, j'étais assez fasciné par cette
Six
série
Six Feet Under, ouais.
Et récemment j'ai vu une série qui est, je crois, sur Disney, qui s'appelle The Bear, qui est l'histoire d'un restaurant à Chicago. Je sais pas si vous avez vu.
Ah, on m'en a parlé dessus.
C'est extraordinaire.
Redis un peu le pitch. Ah oui, c'est quelqu'un qui cuisine.
C'est un jeune chef qui ultra renommé, qui travaillait genre au Danemark dans des restos ultra réputés, 15 étoiles ou je sais pas quoi, et qui revient à Chicago, sa ville natale, pour reprendre la sandwicherie que tenait son frère qui s'est donné la mort. Donc il revient et il y a beaucoup d'histoires de famille à régler.
Ah ouais,
en même temps, lui essaye de retrouver une place et puis un sens à sa vie. Les personnages sont extraordinaires. Et la deuxième saison que je viens de finir de dévorer.
Donc c'est du Disney, hein, Disney Plus.
Alors se trouve sur Disney, ouais.
On fera le check. Et très émotionnel, tel qu'on l'écoute. Ça a l'air très fort quand tu l'écoutes.
Très intense, quoi.
Ah bah tiens, ça me donne envie.
Très très intense.
On va le noter. Tu le conseilles.
Ouais.
Et en plus de The Bear, peut-être un film ciné qui est pour toi un grand classique ou quelqu'un. Un film qui t'a.
Alors.
Un film de chevet, comme on dit.
Écoute, il y a. C'est très large. Hein. Mais je peux revoir un western qui a baigné mon adolescence, qui s'appelait Butch Cassidy et le Kid.
Ah oui, il est connu.
Avec Robert Redford et Paul Newman, qui pour moi était un modèle d'humour et de...
Un grand classique.
Ouais, j'ai adoré ça. Et puis, on peut y rajouter un peu de Didier d'Alain Chabat, par exemple, ou des choses comme ça.
Grand classique aussi, avec Jean-Pierre Bacri.
Ouais.
Et la toute dernière question, tu as commencé un peu à répondre, c'est les conseils que tu donnerais à un jeune ou une jeune, justement, qui veut se lancer dans ce secteur, en assistant ou en réal, on va dire les deux.
Eh bien, passez votre permis de conduire et regardez des films.
Pas de permis vélo, alors, du coup. Permis de conduire, ça reste. Hein.
Non, je dis ça parce que c'était un peu... Enfin, ça a un peu changé maintenant.
Oui,
parce
c'est
que
le ticket d'entrée pour rentrer sur les plateaux.
Mais
quoi.
À une époque et tout ça, on me disait, ouais, je voudrais être stagiaire, machin. C'était ton permis. Bon, voilà, c'était un peu la base. Maintenant, comme on essaye de servir un peu moins de la voiture, c'est un peu contradictoire ce que je viens de donner.
Oui, mais ça reste... Pour des déplacements, ça reste
malgré
utile,
tout, j'en disais, regardez des films. Regardez des films. Regardez des films, allez
culture.
Au musée, écoutez de la musique et puis des films en noir et blanc, quoi.
Soyez cultivés.
Ouais, absolument, parce que ça sert de base, ça sert de fond de
ça ouvre
cerveau,
les chakras
et puis ça. C'est indispensable.
C'est même Steven Spielberg qui disait regardez aussi les films sans le son parce que vous allez mieux comprendre où on voit la caméra.
C'est possible.
Je l'ai jamais trop fait, mais je pense que le conseil est malin.
Ouais.
Venant de Steven.
Pendant 10 minutes, puis après remettez le son, quoi. Mais c'est intéressant. Ouais.
Et tu vas encore autant au ciné qu'avant ou...
J'essaie, j'essaie. Ouais. Ça remplace, rien ne remplace la salle quand même. Hein. Tu vois, y a des... Par exemple, la Palme d'Or, l'Anatomie d'une chute. Je déconseille à tout le monde de le regarder en DVD ou sur un écran et tout ça. Il faut le voir dans une salle.
C'est une expérience.
Ah ouais, c'est immersif, quoi. Sur le, l'image, le son, les acteurs. Enfin, le film est très envoûtant, donc il faut le voir dans la salle. Ouais.
D'accord. Eh bien, écoute, eh ben, Antoine, c'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast. Je pense qu'il va intéresser beaucoup de nos auditeurs. Merci à toi, Antoine.
Avec plaisir.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.